rôle qui peut paraître dérisoire selon les expressions communes. Tout ça, c'est que des discours. Parole, 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 rien que des mots, chantait Dalida à Alain Delon, n'est-ce pas? Pourtant, je pense que dire, c'est faire. C'est certes pas l'actualité qui me démentira. Je suis Charlie à mobiliser des millions de personnes dans le monde. C'est ce que j'appelle la force de frappe des mots. Elle existe bien. Une partie de mon travail consiste à observer la manière dont le sens des mots se construit au fil de ses emplois et de m'interroger sur la mémoire qui se constitue au fil de ses usages. J'essaie d'expliquer pourquoi un mot en devient un autre, voire adopte un sens contraire. J'ai choisi quelques mots, du plus léger, au sens propre, au plus lourd de leur poids historique, de traiter aussi un peu ce qu'on nomme le politiquement correct, souvent avec dédain d'ailleurs. Et puis, pour terminer par une question à débattre, les mots en « heure » sont-ils péjoratifs? J'aurais pu mettre les mots en « as » ou en « art », pensons à « pétasse »,« grognasse »,« lavasse »,« blondasse »,« jaunasse » et j'en passe. Alors, je citerai la réflexion d'un ami linguiste, Paul Ciblot, sur cette expression populaire « appeler un chat un chat », qui nous dit quelque chose de fondamental dans le rapport spontané des locuteurs à leur langue. Je le cite. « L'idée fort banale qu'au lieu d'un terme figuré, euphémique, qu'au lieu d'un détour par un trop ou quelques circonvolutions, nous devons sans embâge appeler les choses par leur nom, par leur vrai nom. » Ah, Nicolas Sarkozy invoquait cet argument en 2005, nous rapporte le Figaro. « Monsieur Sarkozy a utilisé le terme racaille 3 fois et celui de voyou bien plus encore, tout en précisant que ces adjectifs étaient appropriés pour une infime minorité de jeunes. » Interrogé sur ce vocabulaire, dénoncé jusqu'au sein du gouvernement comme une des causes des violences urbaines des 2 dernières semaines, il n'a pas vacillé. Alors j'aimerais bien qu'on vienne me dire bien en face, quelqu'un qui ose frapper un pompier, qui jette des pierres sur un pompier, qui balance du haut de la tour une machine à laver sur un pompier, on l'appelle comment, jeune homme? Monsieur? On l'appelle un voyou parce que c'est un voyou. Quand je dis, il y a des racailles, eux-mêmes s'appellent comme ça, arrêtez de les appeler des jeunes, a-t-il insisté. Le mot juste. Est-ce que le mot juste existe? Je commencerai par une petite réflexion linguistique qui est faite par les écrivains. Souvent, les écrivains parlent de la langue et ils disent des choses intelligentes au-delà de la belle écriture. Je pense à Colette, par exemple, hein, on la lit plus beaucoup aujourd'hui, et qui, dans un joli texte, morceau de bravoure, montre notre désir que les mots soient réappropriés, qu'ils puissent s'interchanger. Il y a aussi le poète Jean Tardieu, qui a écrit un mot pour un autre, une chouette pièce de théâtre d'ailleurs. Et ses réflexions sur les pathologies du langage révélatrices de notre demande à la langue. Il écrit « Nous parlons souvent pour ne rien dire, que si par chance nous avons quelque chose à dire, nous pouvons le dire de 1000 façons différentes, que les prétendus fous sont appelés fous parce qu'on ne les comprend pas, on ne comprend pas leur langage, que dans le commerce des humains, bien souvent, les mouvements du corps, les intonations de voix et l'expression du visage en disent plus long que les paroles et aussi que les mots n'ont par eux-mêmes d'autres sens qu'il nous plaît de leur attribuer. » Alors voilà un petit extrait. Madame fermant le piano et allant devant de son ami. « Cher, très cher peluche, depuis combien de trous, depuis combien de galets, n'avais-je pas eu le mitron de vos sucrés ?» Madame de Perleminous, très affectée, « Hélas, cher, j'étais moi-même très très vitreuse. Mes 3 plus jeunes tourteaux ont eu la citronade l'un après l'autre. Pendant tout le début du corsaire, j'ai fait nicher des moulins, courir chez le Ludion, chez le tabouret, j'ai passé des pouilles à surveiller leur carbure, à leur donner des pinces ou des moussons, bref, j'avais pas une minette à moi. » Chez Colette, c'est le mot presbytère qu'elle jette à tout vent, après l'avoir recueilli précieusement en écoutant des adultes converser. Je la cite. Loin de moi de demander à l'un de mes parents qu'est-ce que c'est un presbytère. J'avais recueilli en moi le mot mystérieux, comme brodé d'un relief fraîche en son commencement, achevé en une longue et rêveuse syllabe. Enrichi d'un secret et d'un doute, je dormais avec le mot et je l'emportais sur mon mur. Presbytère ! Je le jetais par-dessus le toit du poulailler et le jardin de Miton, vers l'horizon toujours brumeux de Moutier. Du haut de mon mur, le mot sonnait en anathème. « Allez, vous êtes tous des presbytères » criai-je à des bannis invisibles. Un peu plus tard, le mot perdit de son venin et je m'avisais que presbytère pouvait bien être le nom scientifique du petit escargot rayé jaune et noir. Grande sera la déception de Colette, son héroïne, quand on lui donnera malgré elle le bon sens du mot, qui perd alors tout son pouvoir magique au profit de la communication sociale. À l'inverse, la plus belle langue du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Et nous sommes parfois en manque de mots. On appelle ça, nous linguistes, une lacune lexicale. On a l'idée que la langue doit être capable de tout dire, de tout nommer. Mais c'est pas trop lui demander, peut-être. Je pense plus particulièrement à un exemple de relation non dite par la langue, dans le domaine de la perte et du deuil. Une femme ou un homme perd son époux, épouse, il sera veuf ou veuve. Des enfants perdent leurs parents et seront orphelins. Mais des parents qui perdent leurs enfants ne reçoivent pas une identité nominale liée à cette perte. Pourquoi ? Le débat a été vif dans le domaine de la mort des nouveau-nés ou des bébés in utero, car le deuil invisible, en quelque sorte, pour la société, se doublait d'un silence des mots, d'un silence lexical. Le deuil devait s'énoncer sur un mode « j'ai perdu mon enfant ». Or, il s'est trouvé des parents pour inventer ce que la langue ne disait pas, parce que sans doute aussi le droit ne le disait pas. En effet, il y a des dispositions liées aux successions dans le cadre d'un veuvage ou d'une perte des parents, mais pas en matière de perte d'enfants. Ce que le droit n'organise pas, la langue le tait. Désenfanté est le terme qui a été adopté par de nombreux parents pour dire ce nouveau statut social et familial. Venons-en maintenant au poids des mots. J'ai posé comme principe que les mots ont de la mémoire, alors entre celle du poisson et de l'éléphant, il y a une marge, que certains exemples trouvés sur le net m'ont fait questionner. Certes, on dira qu'il y a des mots qui pèsent plus que les autres. Civilisation, culture, liberté, démocratie, Waterloo, Trafalgar, Tchernobyl. Que peuvent les mots asperge, cravate, chaussette face à ce poids historique ? Ah ben, ils peuvent connoter. L'asperge appelle, par exemple, un imaginaire érotique. Elle invite à l'amour, disait Madame de Maintenon. La cravate suscite un imaginaire stéréotypé de la droite conservatrice ou du petit bourgeois sur son 31. Et la chaussette. Alors, l'historienne Régine Robin confrontait à l'aune du souvenir deux chaussettes exposées dans un musée célèbre à Berlin, l'une russe, l'autre allemande, ramenées à la même mémoire anthropologique, la même expérience humaine, mais pas la même mémoire politique, une sorte de démémoire, hein, l'idéologie se lit aussi dans les chaussettes. Apprenons aussi un mot léger, alors j'ai dit un mot léger évidemment avec un petit jeu de mots un peu lourd, je vais prendre le mot light. Alors, issu de l'anglais, le mot s'est ancré en français, on peut dire je light, un lighter. Le mot balance entre usage positif, allégé, aérien, et progressivement une appréhension plus négative, puisque le light n'est pas nécessairement bon pour la santé. L'extrapolation du light à des produits dont le gras est constitutif finit par nous donner le produit dépouillé de son identité. Tapez cassoulet, light, charcuterie, light, et votre moteur de recherche fera fleurir la recette et les produits. Alors, ce terme s'est aussi appliqué à d'autres domaines que la cuisine. Parfum light, cigarette light, musique light, livre light, grève de la faim light, sodomie light, on trouve de tout. Entre l'aérien et le superficiel, light fait aussi son bonhomme de chemin idéologique. Exemple frappant, son application au terme islam. On trouve en effet l'expression islam light, musulman light, qui signifie tantôt modéré, éclairé, mais aussi factice, inauthentique. Alors il suffit de passer en revue tout mouvement politique et de pensée et de trouver sa version light, comme les yaourts. Alors j'ai trouvé féminisme light, machisme light, le communisme chinois se fait light, le fascisme light, et cerise sur le gâteau light, l'extrémisme light de Marine Le Pen. L'emploi de light se spécialise donc dans ce qu'on appelle nous l'oxymore, hein, figure de style qui réunit le contraire. A l'inverse, il y a des mots qui ont acquis un tel poids qu'il semble qu'on ne puisse plus les utiliser et les réutiliser comme s'ils étaient écrasés par leur mémoire. Certains noms propres d'ailleurs, hein, dans la cote des prénoms, Adolphe je pense, hein, même si Benjamin Constant est passé par là, ne l'a plus lui la cote. Qu'un certain Hitler l'a définitivement alourdi. Dans le domaine des noms communs, on imagine que des termes comme génocide ou négationnisme sont irrémédiablement ancrés dans une réalité socio-historique qui les attache à une signification forte. Et pourtant, on trouve dans des contextes divers génocide vestimentaire, épuration stylistique, Tchernobyl culinaire, extermination capillaire. Alors là, dans le domaine des cheveux, il y a une recherche à faire parce qu'on trouve tous ces termes utilisés pour désigner des problèmes diffus au niveau des cheveux. Extermination capillaire, je l'ai trouvé à propos des originalités de coiffure des joueurs de foot. Tsunami ou Tchernobyl encore capillaire, conflit capillaire, massacre capillaire, génocide capillaire. Les coiffeurs sont d'ailleurs traités régulièrement de bourreaux. Un petit extrait, cet apprenti coiffeur vient de m'infliger le pire génocide capillaire de tous les temps, j'ai Verdun et Beyrouth sur le scalp. Alors, après des années de négationnisme capillaire, poste une participante sur un forum, qui rappelle combien elle ne s'est pas préoccupée de ses cheveux, et un apax Shoah capillaire. En fait, dans l'analyse du discours, on compose d'une part avec une certaine éthique du discours. Qu'est-ce qu'on fait en répétant des discours qui risquent de perdre la mémoire ? l'esprit un certain fonctionnalisme. Les mots se décontextualisent, se recontextualisent, et puis notre société, elle a besoin de mots mémoire, elle a besoin de mots événements, et puis elle a un besoin pragmatique d'user, de réuser et d'abuser des mots. Donc il y a une sorte de relation dialectique que le langage entretient avec le monde, qui permet des jeux sur la signification, et puis il y a des régulations qui peuvent prendre des formes instituées de normes. C'est ce que montre également de façon différente ce qu'on nomme le politiquement correct. En février 2012, à la une de la presse belge, les syndicats ont déclaré que les médias faisaient du politiquement correct dans leur manière de rendre compte de la grève. Alors la catégorie politiquement correcte, elle est calquée sur l'anglais, en fait elle n'est pas scientifique, mais elle touche à la correction politique et à l'usage politique du langage. Alors la première attestation de l'usage anglais, politically correct, on trouve dans une décision de la Cour suprême des États-Unis en 1793, où il est simplement noté que certains termes dans le contexte politique de l'époque ne sont pas corrects. Alors, l'expression, elle va connaître son heure de gloire dans les années 60, toujours aux États-Unis, mais à l'époque, c'est un terme déjà dévalorisant. La dénonciation du politiquement correct vise en effet certains mouvements politiques, notamment le mouvement pour les droits des homosexuels, les féministes, le multiculturalisme, le mouvement des droits civiques. Et alors, on brocarde certaines propositions de substitution. Par exemple, monteur à la chaîne, ça se dit lineman, mais on entend man. Donc, on va dire line walker, par exemple. Alors, l'étiquette, elle arrive en France dans les années 90, et elle désigne alors le processus qui consiste à remplacer une dénomination brutale par une dénomination diplomatique. Du coup, elle empiète sur un terrain, celui de la langue de bois, pour désigner globalement un discours qui serait fait d'euphémisme, de litote, de périphrase, on tourne du pot, on noie le poisson. Toute une série de termes sont connus et ont été tournés en ridicule. En voie de développement, à mobilité réduite, malvoyant, technicienne de surface, dommage collatéral, frappe chirurgicale, hôtesse de caisse, masseuse. On a même lu « les volailles ont été euthanasiées ». Est-ce vraiment pour leur assurer une fin de vie sans souffrance, hein, le terme euthanasie lui-même étant un peu, disons, peu susceptible de relever du politiquement correct. Pourtant, Bernard Kouchner avait un problème avec le mot euthanasie. Il y entendait le mot nazi. Donc les mots sont chargés de toutes sortes d'a priori idéologiques et de jugements de valeur. Le jeune de banlieue, c'est celui qui habite en banlieue ou c'est le masque lexical du délinquant? Le terme gréviste, est-ce que c'est la personne qui prend part à une grève, qui fait grève? Ou bien, comme j'ai pu le lire dans l'interview d'un anonyme, un manifestant braillard et bourré, trop content d'échapper à un jour de travail pour venir perturber l'activité des honnêtes travailleurs. Résumé d'une série de représentations stéréotypées. La langue miroir du monde se doit de désigner au mieux les êtres et les choses. Un chat est un chat. Mais en fait, il s'agit d'une représentation, d'un désir, en aucun cas de la réalité. Et rares sont ceux qui, finalement, défendent ce qui est considéré comme un processus d'édulcoration, alors qu'il y a aussi un souci de justice, d'égalité et de respect d'autrui dans ces redénominations. De façon légère, hein, San Antonio trouvait que les filles-mères, c'était un peu dur, alors ils disaient on va les appeler les filles-mamans, c'est plus tendre. Alors venons-en maintenant à la forme des mots. Hein. J'ai dit les mots en « heure » sont-ils péjoratifs? Ben, évidemment c'est faux, hein. Instituteur, directeur, majeur, odeur, quoi que. Profiteur, chômeur, fraudeur, voleur. Notre quotidien national, comme on dit communément, a entamé il y a 2 ans une série sur les tabous. Les tabous des Belges, et les tabous, c'est aussi ce qui ne se dit pas. Alors, comme je travaille pas mal sur l'insulte et l'obscénité, ben, je suis un peu attentive à ce qui est tabou. Ma surprise du jour à l'époque, c'était le tabou, c'était les chômeurs sont des profiteurs. Tout le monde connaît dans son entourage une personne qui se la coule douce aux frais de la collectivité ou en donne sérieusement l'impression. Certains assument et s'en vendent. Cliché ou réalité? Le même jour, je lis à la une d'un hebdo qui pique une équivalence surprenante, fraude fiscale, fraude sociale. Et puis encore saisie au vol, une dépêche de l'agence Made in Belgium, la fraude au chômage reste un sport national. Convergence des discours, donc, la truffe de la linguiste est une piste. Alors je me donne aussi ce que je peux, mon avis de linguiste, sur le sens des mots, je glane, le glanage, tabou, en tout cas interdit dans certaines villes de France. Tabou, le sens premier désigne un interdit d'ordre culturel ou religieux qui pèse sur le comportement, le langage, les mœurs. Bon, les mots dérivent, c'est normal, c'est leur vie. Cet interdit est assimilé à la censure ou à l'interdiction. Le tabou linguistique, lui, est assimilé à l'euphémisme. On atténue par les mots, genre il est parti pour il est mort, le vilain pour le diable, l'indisposition pour les menstrues. Il y a des mots tabouisés, notamment selon les sexes dans certaines sociétés. L'interdit linguistique regarde la superstition, la bienséance, la délicatesse, la prudence. Il ne semble pas que ce soit là un tabou dont on parle. Dans le cas du chômeur profiteur, le tabou est un lieu commun. D'ailleurs, dit et redit sur la place publique, il est dit crûment. Profiteur. Dans le halo de discours, disons que les profiteurs sont en général les riches, les patrons, les capitalistes. En effet, un peu de marxisme revient à définir le capitalisme comme la recherche du profit. Ce terme, renseigné comme péjoratif par les dictionnaires, peut prendre une coloration négative plus forte. En effet, il peut servir à désigner une personne qui tire des profits scandaleux de circonstances dramatiques exceptionnelles. Le terme a aussi évolué. Un profiteur de guerre est une personne physique ou morale qui, de manière légale, spéculative ou délictueuse, tire un enrichissement personnel d'un conflit armé. Par exemple, le trafiquant du marché noir ou l'accapareur, qu'on retrouve d'ailleurs dans les injures du capitaine Haddock. Dans une vidéo connue, une parodie de manif de droite, le slogan suivant était lancé « Handicapé moteur, profiteur !» à côté d'artistes fermés là. Il y a une inversion sociale du discours, les profiteurs d'en haut versus les profiteurs d'en bas. Cela même est un stéréotype, genre profiteurs de tous bords, tous dans le même panier, renvoyés dos à dos. Dans son génial petit ouvrage de linguistique sociale spontanée, Jean-Louis Fournier, hein, ça s'appelle « Les mots des riches, les mots des pauvres », liste « Croco en pauvre se dit Sky ». Poulet de Bresse se dit poulet aux hormones, voler un bœuf se dit voler un œuf. Profiteur en pauvre, ça se dit comment? X est sport national. Alors, exemple trouvé sur le net, l'homophobie est un sport national en Ouganda, frauder le fisc un sport national en Suisse, la torture un sport national au Cameroun, la mendicité un sport national en Roumanie, les sondages comme le copinage ou la grève un sport national français, le braquage un sport national marseillais, l'adultère un sport national aux Antilles, la crise gouvernementale en Belgique un sport national, bref, l'expression stéréotypée semble idéale pour instruire des lieux communs sociaux. Tout est-il une question de titre, de présentation? Mettre sur le même pied fraude fiscale et fraude sociale est-il juste économiquement? La présentation de cet événement médiatique pouvait-il être décrit autrement? Par exemple, l'ONEM ne peut remplir ses missions. Ou l'indécence du travail au noir. Tout est une question de mots quand même, toujours. Ah oui, il chôme pas celui-là, indique que la personne travaille comme un acharné. Ce que ne peut pas signifier la simple mention positive, il travaille. Drôle, hein?